Benjamin Bayard, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous recevons aujourd'hui sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On aurait aimé avoir votre avis sur quelques petits sujets un peu touchy, comme l'état d'urgence, le terrorisme, ce qui se passe sur Internet. On commence par quoi, Benjamin ?
Je sais pas, vois ça comme tu veux. C'est Allez. Toi qui fais les questions, moi je fais les réponses.
Ah, t'as décidé d'être relou. État d'urgence, on en est où ? Dans le droit commun.
On en est où ? En fait, on ne sait pas encore. Le bout de texte qui a fuité n'est pas officiel. Les bruits de couloir disent que le Conseil d'État va retoquer une partie de ce que. Ou a retoqué une partie de ce que le gouvernement lui présentait. Je crois que ce sera présenté en Conseil des ministres demain, cette affaire. Demain ou la semaine prochaine, je ne sais plus, j'avoue, je me mélange un peu. Pour le moment, ça ressemble à la stratégie habituelle, c'est-à-dire que on fait fuiter dans la presse un texte qui dit on va faire rentrer tout ça, histoire que tout le monde se mette à hurler parce que c'est dégueulasse. Puis du coup, ils vont en enlever la moitié. Donc du coup, tout le monde dira victoire, on a obtenu que le gouvernement recule sur pouette-pouette. Et puis, la moitié sur laquelle on n'aura pas réussi, elle sera passée.
Et la moitié, en général, qu'on n'a pas réussi, c'est la moitié la plus dure ?
Non. Non, en général, la partie la plus dure, elle est là juste comme chiffon rouge pour nous énerver. Typiquement, le fait que quand tu es assigné à résidence, tu doives communiquer tous tes identifiants. Je ne sais pas si tu vois ce que ça peut faire, tous tes identifiants. Juste, moi, il doit y en avoir 4000. Si tu veux, rien que le site web sur lequel j'achète mes chaussettes, je ne vois pas bien ce que la police va faire avec l'identifiant, mais c'est un identifiant de connexion qui m'appartient. Ça doit être la deuxième ou la troisième fois qu'ils essayent de le faire rentrer dans une loi de prolongation de l'état d'urgence, et ça a toujours été retoqué. Ou bien par le Conseil d'État quand ça passait devant le Conseil d'État, ou bien par l'Assemblée qui disait non, ça passera pas un contrôle constitutionnel. Et là, ils essayent de le remettre, non pas dans une loi de prolongation de l'état d'urgence, mais dans le droit commun. C'est à peu près évident que ça passera pas, ça. Simplement, il faut quand même respecter les règles du jeu du cirque médiatique et politique. Donc on est d'accord, hein, c'est le renouveau politique, Macron tout neuf, machin, juste à l'ancienne, comme les prédécesseurs. En fait, les gens qui nous regardent, ils ratent l'image de Bertrand qui fait le con avec l'air de se branler.
Ça commence bien.
Voilà. Oui, mais tu me déstabilises, du coup, je suis obligé d'expliquer, moi, pour les gens qui regardent. Et donc, cette tactique qui consiste à annoncer énormément, avec deux ou trois trucs très très gros, qu'ils vont retirer, simplement, il va falloir qu'on hurle, et comme ils les retireront, on devra dire qu'on a eu une petite victoire, alors qu'en fait, on a eu une vraie défaite, parce qu'ils auront réussi à faire passer de la merde quand même.
Bon, on a oublié ta petite présentation, les salam alaik d'usage. On te présente comme grand sorcier de l'Internet option vie privée, mais en fait, tu es qui ? Tu fais quoi ? Et t'as fait quoi ? Et tu comptes faire quoi ?
Je suis qui ? Je suis Benjamin Bayard. Ma bio Twitter dit vieux con des Internets parce que j'ai pas trouvé mieux. Activiste, militant dans plein de merdiers associatifs autour du net depuis une vingtaine d'années. J'ai été longtemps président de French Data Network, qui est le plus vieux fournisseur d'accès Internet de France et qui est une association de loi 1901. Je suis actuellement président, co-président avec Oriane Piquer-Louis de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet, associatif. Je suis également membre cofondateur de la Quadrature du Net, président du Fonds de défense de la neutralité du Net. Typographe amateur à mes heures, un des exégètes amateurs. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, les exégètes amateurs, c'est un groupe de juristes et d'informaticiens. Moi, je fais informaticien dans la bande. Qui se charge d'attaquer tout un tas de décrets et de lois liberticides, soit en matière de vie privée, soit en matière de liberté numérique, soit enfin, sur tout ce genre de sujet-là. Ça fait 2 ans et des poussières qu'on tourne. On a déjà obtenu quelques très jolies victoires.
Tu vois comment l'avenir, avec tout ce qu'on sait, on va pas rentrer dans tout le détail du flicage sur Internet, tu veux rentrer dedans ou...
Pas forcément rentrer dans le détail. Pour le moment, l'avenir, moi, je le vois très sombre, mais pas par une analyse politique autour d'Internet, par une analyse plus macro. C'est des trucs bébêtes, si tu veux. C'est de la politique à dessous. La montée de la misère... fait toujours une montée de l'extrême droite, toujours. C'est le cas pendant la crise de 29, et puis ça se termine pas très bien dans les années 30. C'est le cas en ce moment. C'est le cas à chaque fois que tu as une montée de la misère, et que tu as des formes assez extrêmes de misère qui se développent. Ça crée des tensions et des angoisses dans la société, et ça fait monter l'extrême droite. Parce que ça fait monter la haine de l'autre. En ce moment, en France... tu as des formes de misère assez extrêmes qui sont développées, assez fortes. des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, par exemple, c'est un vrai problème. Des gens qui ont un boulot, qui ont un salaire et qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est un problème.
Des travailleurs pauvres ou esclaves ?
Ben, les esclaves, ils dormaient dans un lit, figure-toi. Ils dormaient pas dans leur bagnole. Donc, certes, ils sont pas esclaves. Ils ont le droit d'aller voter pour choisir un président qu'ils n'ont pas le choix. Mais ils dorment dans leur bagnole. Ils dorment pas dans un lit. Ils dorment même pas dans un dortoir. Donc, esclave, c'est pas le bon mot. Tu vois, il y a une forme de respect chez l'esclavagiste qu'on retrouve pas chez l'employeur moderne. Et à l'heure actuelle, rien ne laisse penser que le gouvernement va traiter le problème de misère galopante. Donc, rien ne laisse penser que l'extrême droite va reculer. Et si tu veux, Le Pen est tellement haut aux élections que je vois pas comment ça va finir autrement que très mal.
Ils ont pris une petite tôle quand même à la députation, là, non ?
Mais toujours, puisque de toute façon, le mode de scrutin fait qu'ils n'ont aucune chance. Je veux dire, l'électeur Front National, il n'est pas tellement plus con qu'un autre. Il sait que ça ne sert à rien de lever le cul de sa chaise. Il reste assis chez lui. Il sait qu'au présidentiel, il y a une chance. Il y a une chance d'obtenir que Le Pen soit au second tour. Alors, il va voter. Puis, quand elle est au second tour, il va voter. Il sait qu'elle ne passera pas. Il n'est pas con. Il sait qu'elle ne passera pas. Mais il va voter. Pour les députés, il sait que ça ne sert à rien. Faut pas prendre les électeurs pour des idiots. Hein. D'abord, c'est très insultant, puis c'est en moyenne pas vrai. Ils savent très bien ce qu'ils font.
Quelqu'un qui vote Macron, il sait ce qu'il fait ?
D'une certaine façon, oui, conscient ou non. En général, le public qui vote Macron, c'est le public dominant. C'est le public pour qui la société actuelle convient. Ce sont des gens qui sont plutôt éduqués, plutôt blancs, plutôt riches. J'entends par riche, pas forcément milliardaire.
Hein. 500 euros par mois.
C'est pas ça. C'est qui ont un boulot et pour qui ça va raisonnablement bien, si tu veux. Ils n'ont pas très peur d'être au chômage. Ils se demandent pas comment on va faire pour nourrir les gamins. Ils n'ont pas renoncé à acheter de la viande parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ils continuent à se chauffer l'hiver, tu vois. C'est pas riche avec des salaires de PDG. C'est juste, c'est des gens pour qui ça va bien, en fait. Et si tu regardes, ce sont les dominants de la société actuelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plutôt cadres start-upers, qui n'ont absolument aucune crainte du chômage, qui n'ont pas l'idée de ce que c'est que de passer 2 ans sans boulot et d'arriver en fin de droit.
C'est les 8 millions de start-upers de Macron, c'est ça ?
Ils ne sont pas tous start-upers, mais c'est... oui. En fait, c'est la France qui va bien qui vote Macron. C'est la France pour qui la société actuelle, elle est correcte, quoi, si tu veux, elle marche. Elle apporte les bonnes réponses. Là, ils sont en train de discuter à l'arrière-boutique sur des histoires de micro. Du coup, moi, je suis tout déconcentré. Mais oui, t'es pas content, c'est ça.
C'est bon, on est reparti, tu vas voir ce que tu vas prendre.
Non, mais moi, je me déconcentre, il faut bien que j'explique aux gens qui regardent, puisqu'ils te voient pas faire le singe.
C'est un live, c'est notre prime time, notre premier prime time. Voilà, c'est pour
oui,
ça.
On va pas se prendre au sérieux.
On se prend pas au sérieux.
Bon.
Ah, tu m'as coupé.
Voilà.
Bon, revenons.
Donc l'électorat Macron, je ne sais pas s'il est conscient du fait. Je sais pas s'il est conscient du fait qu'il est la puissance dominante et opprimante de la société actuelle, mais il l'est. Et il vote selon ses intérêts de caste. L'intérêt de caste de tous ces gens-là, c'est que la société ne change pas. Puisque c'est un modèle qui, certes, détruit plein de gens, mais qui leur permet de vivre bien. Ils en sont contents.
Est-ce que tu penses que quand la crise va arriver dans les, dans les assiettes, ou comme disait. Ma grand-mère, quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Est-ce que quand cette masse qui a réussi à prendre le pouvoir de à peu près 8 millions d'électeurs va commencer à voir la crise arriver dans leurs assiettes, ils vont arrêter de réfléchir en mode Macron ?
Non.
Non ?
Non. En fait, ils vont arrêter de réfléchir en mode Macron au fur et à mesure qu'ils vont tomber dans la misère. C'est-à-dire que ce n'est pas les tranches hautes de cet électorat, c'est les tranches basses. Toutes les petites gens pour qui ça va à peu près bien, qui votent Macron parce que c'est modéré et que quand même on va pas voter Le Pen parce que c'est du fascisme et tout ça.
Ou du Mélenchon.
Les petites gens pas contents, ils votent Mélenchon, oui, puis ils ont plutôt raison. Parce que ça correspond au problème, aux questions qu'ils posent, quoi. Même si les réponses de Mélenchon, elles sont pas fabuleuses, les questions posées sont les bonnes. Quand le bas de l'électorat Macron se retrouvera dans la misère, ils vont basculer. Alors ils vont basculer ou bien côté Mélenchon ou bien côté Le Pen. Mais beaucoup côté Le Pen, je pense.
Tu vois ça sous combien de temps ?
J'en sais rien, ça dépendra de la politique menée par le gouvernement actuel, mais je crois que l'idée est globalement plutôt de faire dans l'ultralibéralisme et dans la réduction des droits et des protections des salariés. Ça fait monter la misère, ça la fait pas baisser. J'ai pas lu dans le programme du gouvernement actuel l'idée de faire un traitement social de la misère, l'idée de faire en sorte qu'il n'y ait plus de miséreux en France, point. On en a les moyens. Hein. Je veux dire, la France est assez riche pour que personne meure de faim et pour que personne n'ait d'angoisse, ni en matière de logement, ni en matière d'alimentation, ni en matière d'éducation, ni en matière de santé. On a les moyens financièrement de ça. À l'heure actuelle, la répartition des richesses fait que ça n'a pas lieu.
Même avec nos 2200 milliards de dettes ?
Oui. Oui, même avec nos 2200 milliards de dettes. Je veux dire, la dette vient essentiellement de l'intérêt de la dette. C'est-à-dire que la dette, elle vient pas du déficit, elle vient du fait qu'on paye des taux d'intérêt parce qu'on emprunte sur les marchés. Quand les gens de gauche disent qu'on cesse d'emprunter sur les marchés et qu'on emprunte à la Banque Centrale Européenne, au même taux que la BNP quand elle se refinance. Juste au même taux que la BNP, c'est-à-dire à peu près pot de balle. Et tout d'un coup, le service de la dette diminue, c'est 30, 40 milliards d'euros par an. Les intérêts de la dette, c'est de cet ordre-là, je me gourre pas. Ça fait un putain de trou, 40 milliards d'euros tous les ans. Juste d'intérêt sur la dette, qu'on paye pour rien, il n'y a aucune raison. Puisque le garant en dernier ressort, c'est toujours la Banque Centrale Européenne. Donc que la Banque Centrale Européenne se porte garante de la dette de la France, ou que ça se fasse via des investisseurs à qui on emprunte et qui, eux, vont se refinancer à la Banque Centrale Européenne, c'est toujours le même jeu. Hein. Simplement, entre-temps, on a nourri des intermédiaires inutiles.
Qui sont, à tes yeux ?
Tout le système financier qui est derrière, les gens auprès de qui on emprunte. Et qui, eux, vont refinancer leurs dettes. Parce que l'air de rien... Quand ils doivent emprunter auprès de la Banque Centrale, il faut qu'ils viennent avec des titres solides, qu'ils apportent en garantie. Et c'est quoi les titres solides qu'ils apportent en garantie ? C'est de la dette d'État française, c'est de la dette d'État allemande. Donc en fait, la France emprunte à taux d'intérêt non nul à des banquiers, des compagnies de banques assureurs, des investisseurs, ce genre de personnes-là, qui, eux, vont se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne en empruntant à taux nul et en apportant comme garantie les titres de dette française. Je veux dire, t'enlèves l'intermédiaire inutile et la France va juste déposer ses titres de dette auprès de la Banque Centrale et obtenir de l'argent en échange, et ça fera bien pareil. Hein.
Pourquoi on ne le fait pas ?
Parce que les traités internationaux nous l'interdisent.
Lesquels ?
Oh, t'en as quelques-uns dans les accords européens, dans les traités fondateurs de la Banque Centrale Européenne. Typiquement, la Banque Centrale Européenne n'avait pas le droit de faire ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire le fait d'émettre de la monnaie, et ils se sont mis à le faire, et à le faire en très grande masse, après la crise de 2008, pour sauver le système bancaire, mais ils le font toujours en passant par l'intermédiaire des banques. C'est-à-dire que la Banque Centrale émet de la monnaie, qu'elle prête aux banques, qui s'en servent pour prêter à d'autres, avec un facteur multiplicateur à chaque fois. Mais ça pourrait se faire en prêtant directement à l'État, hein, c'est ce que fait la Réserve fédérale américaine. Juste, nous le sommes interdits.
Revenons à nos moutons. Le terrorisme et Internet. Quand on entend les politiques dire que les gens se radicalisent sur Internet, ça te fait penser à quoi ?
Ben, c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement vrai. Les gens se radicalisent sur Internet. Les gens draguent sur Internet aussi. Les gens baisent sur Internet. Les gens font tout sur Internet. Donc en fait, les gens qui se radicalisent, ils se radicalisent dans le monde dans lequel ils vivent. Au 19e siècle, ils se radicalisaient au bistrot. Au 20e siècle, ils se radicalisaient dans des manifs. Ils se radicalisaient à la télé. Ils se radicalisaient en écoutant les discours des politiques et en se disant que c'était des mensonges. Maintenant, ils se radicalisent sur Internet, mais tout se fait sur Internet. Donc en fait, ça, c'est une non-déclaration.
Et quand on objecte qu'avec Internet, ça va plus vite,
ouais.
Ça touche plus de monde.
Oui, ça va plus vite. Ça touche plus de monde, c'est pas clair. C'est pas clair. Moi, je vois plus, si tu veux, le travail des services de police, pour faire simple, de ces 30 dernières années. Il y a eu un travail très fort pour détruire toute la sphère d'influence de l'extrême gauche. Alors qu'on s'entende, quand je parle d'extrême gauche, je ne parle pas de Mélenchon et son orchestre. Je parle de la vraie extrême gauche.
C'est laquelle la vraie ?
Eh bien, celle d'Action Directe, celle des Brigades Rouges, l'extrême gauche très dure.
L'antifascisme ?
Typiquement, les petits bouts qui en restent, c'est les antifas, même si ceux-là sont relativement soft. C'est de l'extrême gauche pas violente, les antifas. En fait, l'intérêt qu'avait l'extrême gauche comme structure sociale, cette extrême gauche-là, c'est qu'elle récupérait les exaltés et qu'elle les politisait. Elle les éduquait. Ça n'en faisait pas des gentils, hein, ça n'en faisait pas des tendres. Mais simplement, quand ces gens-là décidaient de passer à l'acte de manière violente, ils le faisaient de manière très réfléchie. Et ce qui faisait le plus gros comme attentat, c'était de séquestrer un PDG et de l'exécuter. On pense au PDG de Renault, par exemple. Ils visaient pas la foule. Ils essayaient pas de faire dérailler des trains, de tuer des gens et de tirer dans la foule dans un concert, tu vois. C'est absolument pas la forme que ça prenait. Ça prenait la forme d'un attentat politique. D'un attentat disant, ok, l'ennemi c'est le grand capital, donc on va abattre le grand capital, on séquestre le PDG de Renault, on l'exécute, etc. C'est pas forcément bien, je dis pas que c'est bien de faire ça. Je dis que c'était une façon, finalement pas si bête, de récupérer toute une génération d'exaltés et de les amener à faire de la politique au lieu de faire juste de la violence. Et comme tout ce milieu d'extrême-gauche n'existe plus et n'est plus capable d'absorber les exaltés, qui les récupère ? Les djihadistes. Et eux, ils ne cherchent pas à les politiser, ils ne cherchent pas à les instruire, ils ne cherchent pas à leur expliquer Marx, tome 1, tome 2, tome 3. Non, ils cherchent juste à les faire passer à l'acte, vite, et à les faire mourir en passant à l'acte. Donc, les ceintures d'explosifs, les kalachnikovs, on tire dans la foule, tu te feras abattre par la police, et tu mourras en martyr. Et c'est pas du tout... je trouve pas que ce soit mieux, si tu veux. Le modèle où on en faisait des militants extrémistes, très durs, et qui en général finissaient en prison, il n'était pas forcément plus malsain. Mais ça fait une trentaine, une quarantaine d'années que tous les services de police en Europe ont peur des attentats d'extrême-gauche. Genre les actions directes en France et les brigades rouges en Allemagne, ça a laissé des souvenirs, et des souvenirs très durs. Et donc, il y a un contrôle assez fort, et qui continue, de toutes les mouvances extrêmes, de toutes les, même les mouvances anarchistes. Pourtant, il n'y a pas eu d'attentat anarchiste en France depuis plus de 100 ans. Il reste un contrôle policier très, 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 très fort là-dessus, parce qu'il y a une peur.
La peur de que l'État perde ses pouvoirs régaliens ?
Je ne sais pas, parce que je ne crois pas que ces mouvances-là puissent faire 51% à quelque élection que ce soit. En revanche, c'est effectivement les sources anciennes d'anciennes formes de terrorisme, et il reste des réflexes dans la grande maison police de crainte de ces milieux-là. Après, il se trouve qu'effectivement, typiquement les milieux anarchistes, pour ce que j'en ai lu, développe une pensée politique un peu plus structurée que celle du Parti Socialiste. Tu me diras, c'est pas très dur.
Tu me voles les mots de la bouche, mon ami. Bon, si on discutait, alors on se découvre un petit peu pour revenir après sur ce sujet-là. On va parler crypto-monnaie. Qu'est-ce que t'en penses ? On passe à l'Ether, après le Bitcoin, on fait du Bitcoin encore longtemps ?
S'il y a bien un sujet sur lequel je connais pas assez pour en parler, c'est celui-là. Je suis vraiment très, 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 très léger sur les crypto-monnaies. Je connais un tout petit peu le principe, mais pas plus que ça. Je n'ai pas spécialement d'opinion.
Bon, bah, c'était une question du chat internet, du chat. Donc, dommage, les gars. Et revenons à nos moutons.
Enfin, si tu veux, là-dessus, j'ai trois banalités, quoi. Ça m'intéresse qu'on réfléchisse au fait que la monnaie soit émise par autre chose que la Banque centrale. J'ai aucune idée des formes de régulation dont il y a besoin. Je ne connais pas assez le sujet pour avoir un avis intelligent. Point. Je sais à peine comment ça marche techniquement.
Bonne réponse. La blockchain, ça te parle ?
Ouais, je vois vaguement comment ça marche, pas plus.
Déployer un réseau non filaire.
Ça, c'est un sujet que je connais mieux.
Tu sais tirer des câbles, hein, c'est ça, non ?
C'est-à-dire que, si tu veux, je suis quand même président d'une fédération de fournisseurs d'accès Internet associatif, donc ouais, j'ai une petite idée de comment on fabrique du réseau, depuis les couches tout en bas jusqu'aux couches tout en haut. Et...
Ils t'ont mis des black marks chez toi ? Des black box chez toi ?
Non.
Comment on peut vérifier ?
En fait, comment tu pourrais vérifier toi ? C'est facile, en fait. Tu adhères à quelques-uns des fournisseurs d'accès Internet de la Fédération. Tu deviens un peu actif. Puis du coup, tu feras partie de l'équipe d'Admin 6, en espérant que tu aies les bonnes compétences. Et puis, du coup, c'est toi qui iras raquer les machines en baie et tu constateras que dans la baie, il n'y a que nos machines.
Comment on fait pour adhérer chez toi ? C'est où, c'est comment, c'est quand et c'est combien ?
Alors c'est très variable parce qu'il y a 30 associations. FFDN.org, ça te donne le site web de la Fédé. Dessus, tu trouves la liste des 30 associations membres. Et tu peux aller voir sur les sites web de chacune des associations en fonction de la région, des affinités, etc.
Le plan national sur le numérique, le grand plan pour aller tirer de la fibre sous des trottoirs.
Le plan national très haut débit, quel beau sujet. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?
Tout.
On n'a pas le temps. tout, on n'a pas le temps.
Croustillant, allez, on commence par le croustillant. Le croustillant comme on aime, c'est-à-dire sourcé, étayé, triangulé. On t'écoute.
Croustillant. Alors, je te donne du sourcé, puis après, t'en tires ce que tu veux. La Commission européenne a mis près de 2 ans à valider le plan. Parce qu'en fait, la puissance publique, l'État, mais pas que, injecte de l'argent dans le déploiement des réseaux. Et au final, c'est toujours des opérateurs privés qui déploient les réseaux. Et donc, il fallait convaincre la Commission européenne que c'était pas du financement déguisé pour Orange et compagnie. Et le gouvernement a mis 2 bonnes années à réussir à en convaincre la Commission. Et il y a des raisons à ça. C'est que c'est du financement déguisé d'Orange.
Ça a été sourcé canon ?
Non, mais la pratique te le montre, en fait. Moi, j'ai compris ça quand je lisais l'appel à projet, avant même que ça commence. L'idée, c'est que dans toutes les régions... En fait, ils ont découpé la France en 3 zones. Tu as les zones très denses, Paris, Lyon, Marseille, ce genre de coin, sur lesquelles ça va être le bordel. Tu as les zones denses autour, sur lesquelles les opérateurs se sont mis d'accord entre eux pour co-investir. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 opérateurs se sont alliés pour dire « dans telle zone, on va fibrer ». Typiquement, la banlieue parisienne est couverte à 90% comme ça. Et puis, il y a tout le reste, où en fait, les opérateurs ne sont pas d'avis d'aller investir parce qu'ils estiment que ce n'est pas rentable de le faire pour eux.
Le service public, il est où ?
Ah ben, le service public, Orange, ce n'est pas son boulot. Orange, c'est une boîte privée, camarade. Et donc, dans ces zones-là, la puissance publique va investir. Le montage est assez curieux parce que dans toutes les zones où les opérateurs ont jugé que c'était rentable et vont investir tout seuls comme des grands, la puissance publique s'interdit d'investir. C'est-à-dire qu'en fait, l'État décide qu'il va investir du pognon partout où il est certain de ne pas en gagner et il ne va pas en investir là où il pourrait en gagner pour compenser. Autrefois, on faisait ça. Du temps où les télécoms, c'était un service public, on investissait dans tout le pays. Et puis, dans les zones très rentables, ça crachait du blé. Dans les zones pas rentables, ça en perdait. Et l'un dans l'autre, ça faisait une somme nulle. Et on appelait ça la péréquation. Ça ne se pratique plus. Ça, c'est du langage ancien des années 70. Et donc, l'approche est celle-là. Il y a eu une description du projet type. Sur comment on fibre la race campagne, si tu veux. Et puis, chaque collectivité territoriale doit monter son projet, choisir un peu le montage légal qui va bien derrière, faire un appel d'offres auprès des opérateurs qui savent faire ça, et puis on va voir à qui on délègue ce service public. Et dans le montage de ce financement-là, il y a écrit en filigrane tout du long, le but est de financer Orange.
C'est ton interprétation.
Oui, c'est mon interprétation. Il n'empêche que la pratique depuis 5 ans, montre que mon interprétation est la bonne.
Alors, une question d'Internet, une parenthèse, c'est quoi une black box ?
C'est quoi une black box ? Ça, c'est une référence à ce qu'on a appelé les boîtes noires dans le projet de loi sur le renseignement. En fait, c'est un truc dont on n'a toujours pas la définition exacte. On n'a que sa définition légale, qui serait interception en direct sur le réseau des opérateurs d'un certain nombre de données. Mais on ne sait pas bien lesquelles, et même la définition légale est relativement floue. Et on n'a toujours pas vu de décret d'application de ce truc-là paraître. Et il n'y en a toujours pas d'installé, officiellement.
C'est propre. L'intérêt de ce genre de dispositif ? L'intérêt de la loi renseignement par rapport au terrorisme ?
Par rapport au terrorisme ? À peu près nul.
T'es sûr de ton coup ?
En fait, t'as
pourtant, on nous a dit, il y a 2 jours, que vous ne comprenez pas qu'on puisse passer des lois de type état d'urgence alors qu'il y a des attentats dans la rue.
Ouais. Ça, c'est de la logique Shadok. Ça marche super bien. En fait, s'il n'y a pas d'attentat, les politiques t'expliquent que c'est grâce à l'état d'urgence, donc il faut le maintenir. S'il y a des attentats, les politiques t'expliquent que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'état d'urgence et il faut le renforcer. Donc en fait, ils ne démontrent jamais rien. Ils ne démontrent jamais que c'est utile. Ils affirment que c'est utile et que ça marche, et puis si jamais ça ne marche pas, il faut le renforcer. Ça relève de la croyance. C'est exactement de la logique Shadok. Si tout va bien, c'est parce qu'on pompe. Si ça échoue, c'est parce qu'on ne pompait pas assez fort et qu'il faut pomper plus. Et donc, dans le doute, on continue à pomper.
Tu verrais les choses comment pour arranger les choses ?
Y a des questions que je ne vois pas traitées par les politiques et qui pourtant me paraissent intéressantes. Pourquoi quelqu'un qui a grandi en France a envie d'aller tirer dans la foule et de mourir abattu par la police ? Pourquoi ? C'est intéressant, je trouve, comme question. Je te rappelle que la réponse d'un précédent Premier ministre qui est en train de se débattre dans l'Essonne pour savoir s'il est élu, était que chercher à comprendre, c'est déjà excusé.
C'est Manuel, c'est ça ?
Ça, c'est Manuel Valls. Et pourtant, c'est fondamental. Comprendre ça, c'est vachement intéressant. Et je vois pas le politique travailler là-dessus. Comprendre pourquoi. Comprendre comment se construisent ces réseaux. Typiquement, la loi renseignement, elle permet deux grandes natures de choses. Elle permet de la surveillance ciblée. Ce qui n'est pas forcément malsain en soi. C'est-à-dire que quand il y a une suspicion légitime contre quelqu'un, d'appartenir à la pègre, de faire du blanchiment d'argent, de préparer du terrorisme...
Faire de l'évasion fiscale.
Faire de l'évasion fiscale, enfin tu vois, des trucs un peu pas bien, quoi. Que les services de renseignement aient les moyens de mettre légalement sous surveillance, sur écoute, d'aller poser des micros. En fait, toutes les barbouzeries qu'ils font depuis toujours, qu'il y ait un cadre légal dessus, moi je trouve que c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt bien. Et puis, dans la loi renseignement, il y a, si tu regardes bien les critères pour faire ça, ils sont très flous. Et souvent, ils correspondent pas forcément avec l'intérêt général.
Ils correspondent avec quoi ?
Bah, typiquement, quand on te dit défendre l'intérêt des acteurs économiques importants pour la nation, ça, c'est dans les textes. Hein. Je suis pas tout à fait certain que défendre les intérêts d'un actionnaire privé, ce soit l'intérêt général de la France, tu vois.
Oui, mais par exemple, si je vais faire l'avocat du diable, une start-up française.
Oui.
Qui découvre le Saint Graal. Cette entreprise est menacée par X ou Y service étranger en termes de renseignement économique. Ça peut peut-être avoir quand même un intérêt d'avoir un dispositif qui puisse surveiller ceux qui surveillent notre boîte.
Bah oui et non. Oui, ça a un intérêt. Je pense que c'est plus efficace de former les startups à la protection de leurs données.
C'est ça ?
Un peu d'éducation informatique, c'est pas plus mal. Un peu d'hygiène en matière de sécurité informatique, ça fait toujours du bien. Ça, c'est par exemple le boulot de l'ANSSI. C'est pas du tout des services de renseignement. Et surtout, quand tu regardes la définition légale, je l'ai plus en tête au mot près, mais on t'explique que c'est en gros les entreprises qui ont une importance vitale pour la nation. Donc c'est pas les start-up. C'est Orange, c'est Thales, c'est...
Total.
Elf Aquitaine, enfin tu vois, ce genre de start-up-là, quoi.
Qui peuvent aider en Afrique de temps en temps.
Oh, qui peuvent aider dans plein de choses. Qui fournissent des postes pour les ministres en fin de carrière, qui... Fin...
Alors, question d'Internet. Y a-t-il des black box de la DGSE dans tous les DSLAM de France ?
Non.
Non ?
Non.
T'as aucun moyen de le savoir.
En fait, si, tu as des moyens de le savoir, parce que les équipements sont quand même relativement maîtrisés par les ingénieurs, et globalement, pour installer ça, il aurait fallu en installer des dizaines de milliers, ce qui veut dire qu'il y aurait des milliers d'ingénieurs télécoms qui bossent dessus et qui savent ce qui tourne sur leurs équipements, et que dans tout le lot, il n'y en ait pas un qui soit venu me parler avec une bière, juste, j'y crois pas. Si tu veux, du grand complot, ça marche super bien quand il y a 30 personnes, pas quand il y en a 4000.
Ah ouais, et si je te dis que le projet Manhattan était noyauté avec 300 000 personnes ?
Ben, il n'était pas si secret que ça, et surtout, toutes les personnes concernées étaient toutes au même endroit.
À revoir, à discuter. Bon, tu me prends à défaut là, mais bon. Question d'Internet. C'est possible de préserver sa vie privée sur Internet quand
non.
On n'a pas de connaissances techniques pour utiliser les outils préconisés, entre guillemets, VPN, proxy, etc.
Non.
Non ?
Non. Mais même avec les outils, c'est pas possible.
Clairement, c'est compliqué, ouais.
Non, mais même avec les outils, c'est pas possible. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Je te donne deux exemples très bêtes. Tu veux utiliser un site de rencontre pour draguer. Bon.
Un show ou un...
Qu'importe.
Ouais.
Si sur ton profil, tu mets ton vrai âge et une photo de toi, et ton vrai prénom, bah, t'es pas tellement anonyme, quoi. Je veux dire, à part le nom de ton patron, il manque pas grand-chose. Bon, et je te parle d'un service relativement accessoire, mais déjà, t'es pas tellement anonyme. Et en fait, si sur ton profil, tu mets pas ta photo, tu perds 90% des contacts potentiels. Bon, parce que les gens savent pas à qui ils parlent, ce qui est relativement logique.
Mais nous, on a pris ta photo, mais ça marche bien. Hein. On a pris ta photo pour parler sur les chats.
Bah oui, du coup, quand t'arrives au rancard...
on n'est jamais déçu.
Le mec que tu draguais, il est déçu.
Bon, arrête tes conneries, continue.
Typiquement, tu décides que tu veux être un peu protégé, mais tu utilises Twitter. Bah oui, mais toutes les données qu'a Twitter, il les a quand même. C'est ton compte sur lequel tu as tweeté telle et telle chose, tu as liké telle et telle chose, tu as passé tant de temps à regarder telle pub et ils le savent. Enfin, toutes ces infos-là, même si tu passes par des proxys et des machins, ils ont. Donc, en fait, tu ne peux pas protéger ta vie privée. Et ce n'est pas forcément souhaitable de le faire. La vraie question, elle est duale. C'est d'abord, quelles informations ils collectent à ton insu ? Ça, c'est très embêtant. C'est-à-dire, typiquement, le petit like Facebook que tu vois en bas de tous les articles de blog, de tous les articles de presse, etc., lui, il permet à Facebook, même si tu n'as pas de compte chez eux, de savoir ce que tu as vu, quand, à quelle heure, etc., etc.
Ce que tu vas voir après.
Ce que tu verras après, et du coup, de faire du profiling, de regarder, il a regardé un article sur ça, puis un article sur ça, donc du coup, c'est probablement un mec blanc dans la trentaine, instruit, avec tel niveau de revenu. Enfin, ils savent te profiler très très vite à partir de tes lectures, même s'ils n'ont pas ta page Facebook derrière, hein. Donc, même avec une navigation privée...
T'y crois vraiment l'authentification par habitude ?
Oui, bien sûr.
C'est un cauchemar, ça.
Bien sûr, mais ils n'ont pas besoin de t'identifier exactement, parce qu'ils s'en foutent. Ils ne veulent pas avoir ton nom, ton prénom, ton adresse. Ils s'en cognent de ça. Ils voient à peu près à quelle catégorie socio-professionnelle t'appartiens. Du coup, t'es encore un peu jeune pour qu'on te propose les couches seniors. Hein, t'es un peu vieux pour qu'on te propose les bouquins pour réviser le bac. Tu vois, du coup, ils ciblent très vite en termes de marketing. Ils voient bien si tu es plutôt dans les très pauvres au RSA et à galérer en fin de mois, ou si tu es plutôt du genre à te dire que ça fait 3 ans que tu n'as pas changé de BM et il faudrait que tu en achètes une autre.
Pourquoi j'ai que des pubs de Louboutin sur...
Je ne sais pas, demande-toi ce qui colle à ça dans tes habitudes. Peut-être pour te changer de tes tongs. Non, parce que vous ne voyez pas les images, vous autres, derrière Internet, mais le mec, il est en tongs.
Et des tongs avec... Tu vois pas, bon, passons. Que pense Benjamin Bayard de l'action de l'ANSSI ?
Plutôt pas mal. En général, quand ils publient des guides d'hygiène informatique, ils sont plutôt bons. Quand ils font des préconisations en matière de sécurité, elles sont plutôt bonnes.
Il est cool, Poupard. Il est cool, Poupard.
J'en sais rien, moi, je l'ai jamais croisé.
Jamais ?
Non. Bah non, si tu veux, quand je fais table ouverte, il vient pas picoler, donc... je l'ai jamais croisé, Poupard.
On l'invite ? Tu l'invites ? C'est Guillaume qui s'appelle, non ?
Moi, en général, quand je fais table ouverte, c'est pas souvent ces temps-ci, mais quand je le fais, je l'annonce sur Twitter. S'il me suit sur Twitter, il sera donc au courant comme tout le monde. Et comme tous mes followers ou mes pas followers, il a le droit de venir.
Ça se passe toujours au...
Ah, quand ça se passe, c'est au Pouche, là, 10 rue Mandard, dans le deuxième.
Voilà. En général, le jeudi soir.
En général, c'est le jeudi soir, mais ça fait presque un an qu'il n'y en a pas eu.
Ouais. On en était à l'état d'urgence, les décisions.
Sinon, est-ce que c'est bien l'ANSSI ? Oui. Typiquement, quand ils font du conseil au gouvernement, ils font ça bien. Quand le gouvernement a des velléités de foutre la merde dans le chiffrement, l'ANSSI rappelle de manière assez forte que non, le chiffrement de bout en bout est une nécessité impérieuse en matière de sécurité pour les gens.
Et pour les entreprises,
mais pour les gens, parce que si tu veux, moi je suis plus attaché à la liberté des gens qu'aux libertés des entreprises. Parce qu'en fait, c'est les droits de l'homme qu'on a proclamés en 1789, pas les droits de l'investisseur. Et je trouve ça assez important.
L'Arabie Saoudite ?
L'ANSSI fait du bon boulot là-dessus. Le gouvernement ne suit pas. Et si tu veux, quand la note de 3 ou 4 pages qu'a écrit l'ANSSI fuite dans la presse, c'est parce que le gouvernement ne suit pas. Je ne sais pas d'où vient la fuite. Est-ce qu'elle vient de quelqu'un dans les conseillers gouvernementaux ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un à l'ANSSI ? Mais quelqu'un s'est rendu compte que c'était une grosse connerie de ne pas les écouter et a fait fuiter. Mais la note, elle était de très bonne qualité. C'est-à-dire que le gouvernement reçoit les bons conseils depuis la bonne instance. Cette instance fonctionne.
Et s'il n'applique pas, c'est quoi ? C'est de la forfaiture ? Ils reçoivent des instructions d'autre part ?
J'en sais rien. Est-ce qu'ils reçoivent des instructions d'autre part ? J'en suis même pas sûr. Je pense qu'ils sont juste cons.
C'est horrible. revenons... C'est difficile de se concentrer avec toi. Une question d'Internet. Pourquoi se méfier de la loi renseignement ? Quels sont les risques à venir ?
À venir ? Ils sont pas à venir, en fait. Ils sont pas à venir du tout. Ils sont réels et ils sont en ce moment... Il y a une volonté très forte de tous les gouvernements occidentaux de surveiller leur population. C'est compréhensible. Comment expliquer ça facilement ? Internet est le signe du fait que le monde est en train de changer. Souvent en conférence, je raconte ça. Je raconte longuement, pendant 1 à 2 heures de conférence, ce qu'Internet change dans la société. Le fait que le fait d'avoir un réseau de télécommunications électroniques met à plat les rapports sociaux, permet aux gens de s'exprimer ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je veux dire, t'aurais pas pu tenir une chaîne de télé avant.
Pas de chaîne de télé.
Bah, tu tiens une chaîne YouTube sur laquelle t'interviews des gens. Tu pouvais pas faire ça. On n'aurait pas pu faire ça avant Internet. Parce qu'on t'aurait pas laissé faire. Tu faisais de la radio parce que c'était de la radio pirate. Mais tu vois, ça, c'était pas possible avant Internet. Et ça, en fait, ça change les structures de la société. Et quand tu présentes ça, quand je présente ça en conférence, en fait, t'as l'idée Internet change le monde. Et ça, c'est une idée fausse. Parce que c'est une idée dans laquelle t'imagines, il y a une société, elle est là. Puis elle va bien, elle fait sa vie, tranquillou, elle est sortie du 19e siècle, elle invente la télé, la radio, tout ça. Belle société, hein, replète et tout. Et puis on pose un Internet dessus, et puis ça la déforme, et ça la change. Oui, mais c'est qui le « on » de l'extérieur qui pose Internet sur le monde pour le changer ? Alors, soit tu acceptes l'hypothèse divine. Moi, j'aime bien.
Non.
Et on dit que Internet est l'outil envoyé par Dieu aux hommes pour les rendre meilleurs. Moi, je veux bien l'hypothèse divine, je la trouve cool. Ou bien, tu n'acceptes pas cette hypothèse-là, et tu dis que ce n'est pas extérieur. Et que donc, Internet est l'outil dont nos sociétés se sont dotées pour pouvoir changer. Et en fait, quand une société change, il y a un risque que les puissants ne soient plus les mêmes. Et donc, les puissants d'avant ont envie de le rester, et s'opposent au changement et ont peur du changement. Et ce genre de crainte-là, ça se traduit toujours par le fait que les puissants ont peur du peuple parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont peur de perdre le pouvoir.
On fait quoi pour les aider ?
Bah, y a une des solutions traditionnelles en France qui est de les décapiter.
Le freedom razor, comme ils disent.
Je suis pas spécialement fan. Je suis pas spécialement fan parce que ça se termine pas très bien. Enfin, c'est le truc pas cool. Mais en fait, t'as deux façons de faire ça. C'est soit le changement se fait en douceur, c'est-à-dire que le monde se réforme et change, sans forcément finir en guerre civile, sans forcément finir dans un bain de sang, juste le monde change. Et donc les structures de pouvoir s'ouvrent. C'est-à-dire typiquement tout le boulot qui a été fait par Etalab, je le trouve intéressant. Il est faible en ce sens qu'il est inabouti.
Explique Etalab pour...
Tout ce qui est la notion d'open data, d'open government, de mise à disposition de plein de données publiques.
Avec des mots en français.
Et où en fait, si tu veux, la puissance publique accepte de dévoiler ce qu'elle fait. Et donc les gens ont le droit de regarder, ont le droit d'en faire des choses bêtes, des choses intelligentes, et de travailler sur de la donnée publique. Et ça, ça permet plein de choses. C'est une forme de transparence où l'État dit publiquement ce qu'il fait. Ça, c'est plutôt bien. Et Henri Verdier, le mec qui a fait ça, il a fait ça plutôt bien. Alors, tu peux voir le verre à moitié vide et puis dire c'est très inabouti, c'est encore insuffisant, il faudrait faire 10 fois plus, 10 fois mieux, machin. Oui, mais enfin, c'est un vrai bon mouvement dans le bon sens et c'est plutôt bien.
Henri, si tu nous entends.
Voilà.
Attends toujours tes hackers israéliens.
Et donc, ça, c'est plutôt du mouvement de la société se réforme et du coup, elle va changer sans casser. Et puis, tu as des tas de rigidités. Et typiquement, la loi renseignement, elle relève des rigidités. Les velléités d'empêcher le chiffrement des communications, ça relève des rigidités, de l'incapacité à comprendre. Mais de même, si tu veux, que l'amendement de François Fillon en 1996 sur le paquet télécom, qui disait que pour ouvrir un site web, bah oui, un site web, tu comprends, c'est de l'image, c'est du texte, c'est du son. Bon, image, texte, son, tout ça, c'est audiovisuel. Et donc, pour ouvrir un site web, il faut demander une autorisation d'émettre au CSA. Ça, c'était l'esprit de l'amendement Fillon en 96. C'est une rigidité, c'est une peur. Tout le monde se fout de ce truc-là et le trouve totalement ridicule aujourd'hui. Tous les gens qui connaissaient un petit peu Internet en 96, 97, trouvaient ça parfaitement ridicule. Juste, on était 0,2% de la population et on a eu un mal de chien à lutter contre cet amendement. Aujourd'hui, on aurait moins de mal. Il paraîtrait ridicule à tellement de gens que ça ferait rire tout le monde. La loi renseignement, c'est le même problème, en fait. C'est un problème très similaire.
Tu comprends l'argumentaire qu'il y a en face de « on est obligé de pomper pour arrêter le Shadok ». Mmh.
Oui,
qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui a perdu un enfant, un proche dans un attentat ? Si un jour on te dit « voilà, c'est de votre faute, On aurait pu choper tous les terroristes d'un coup.
En fait, on n'aurait pas pu. C'est ça le problème.
À cause du downgrade technologique qu'ils utilisent ?
Non, ça c'est un argument technique. Or, c'est pas un argument technique. C'est pas un problème de technique. On n'aurait pas pu parce que si tu prends des choses très simples, quasiment tous les terroristes qui ont agi ces derniers temps étaient fichés. Ils étaient fichés, c'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il y avait un problème avec eux. Pourquoi ils n'étaient pas surveillés ? Pourquoi on n'a pas vu ?
Pas de moyens.
Parce qu'en fait, pour surveiller quelqu'un à plein temps, il faut, je ne sais plus, 20 ou 25 fonctionnaires de police, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut un budget de malade mental. Je ne sais pas si tu vois, 30 personnes, c'est énorme comme budget.
On peut remplacer ça par l'intelligence artificielle ?
Eh bien non, on ne peut pas.
Est-ce que le big data... Alors, on rebondit. Question Internet, est-ce que le big data est une nouveauté bénéfique ou est-ce que c'est trop dangereux pour qu'on lui fasse confiance ? Quid de l'influence de futur intelligence artificielle dans la vie privée et donc dans le renseignement ?
Il y a trop de bullshit word dans la question pour que je puisse apporter une réponse intelligente.
Bon, alors je reformule. Est-ce que le big data, ça peut servir à quelque chose ou est-ce que c'est trop dangereux ?
Alors en fait, big data, ça veut rien dire.
Bon,
donc je vais commencer par débunker ce mot-là.
Allez, go.
Big data, ça veut dire grosse masse de données. Est-ce que les grosses masses de données permettant de faire des calculs statistiques, c'est quelque chose d'utile ? Tous les chercheurs en sociologie te diront que oui. C'est l'évidence même. Après, ce qu'on appelle big data, c'est-à-dire le fait que des entreprises utilisent des grosses masses de données pour faire ce qui sert leurs intérêts à elles, ça peut faire quelque chose d'utile. Bah oui, pour les entreprises en question, mais pas pour toi. Je prends un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'usage du big data par les compagnies d'assurance. Le principe même, la définition de l'assurance, c'est de mutualiser le risque. C'est de dire... ok, on te couvre contre l'infarctus du myocarde, et donc bah, on couvre toute la population contre ce risque-là. Et en fait, il y a en moyenne X personnes sur 1 million qui ont un infarctus dans l'année, et donc qui vont coûter cher à soigner, mais comme on est 66 millions en France, ça fera que tant chacun à payer d'assurance maladie qu'on appelle sécurité sociale, et du coup, le risque est très facile à mutualiser. Bien.
Et plus socialiste ou anarchiste ?
Oh, un subtil mélange des deux, avec d'autres choses. Une espèce d'anarcho-libéral d'extrême-gauche, enfin, c'est très compliqué. Donc le principe de l'assurance, c'est de mutualiser. Or, si tu regardes ce que cherchent à faire les compagnies d'assurance avec toutes les données statistiques qu'elles peuvent collecter sur toi, c'est établir ton profil de risque pour assurer, en payant très très peu cher d'assurance, les gens qui présentent très peu de risques, et puis faire payer très cher aux autres. C'est-à-dire, en fait, ne plus mutualiser.
C'est normal, il faut faire
mais
payer.
Non, c'est juste idiot. C'est totalement idiot. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu mutualises plus le risque. Et si tu veux pas mutualiser le risque, eh ben tu t'assures pas. C'est vachement simple, en fait. Puisque si vraiment tu n'as aucun risque, toi, tu présentes un profil, mettons, absolument idéal sur tel jeu d'assurance. Mais même si on te propose un contrat à 2 euros par mois, c'est 2 euros trop cher, puisqu'il n'y a pas de risque. Tu vas pas payer 2 euros pour couvrir un risque nul. C'est débile. En fait, ça n'est intelligent que si on part du principe que c'est mutualisé, qu'on couvre pour tout le monde, et que c'est 3,50€ pour tout le monde. Et là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Effectivement, toi, tu présentes très 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 peu de risques. Si jamais, par extraordinaire, ça t'arrivait, ben, tu serais couvert. Ça t'arrivera probablement pas. Eh ben, t'as payé 3€ pour rien, mais de toute façon, ça permet de couvrir tous les autres, et donc, bah, t'as plutôt créé une société plus douce et meilleure.
Égalitaire.
Et un peu égalitaire, un peu pas mal, où on aide les gens qui n'ont pas de bol. C'est plutôt bien. Mais ce que font les compagnies d'assurance en faisant ça, c'est qu'elles sont en train de se rendre inutiles. Elles sont en train de tuer la vache, le veau d'or. Elles sont en train de tuer la poule aux œufs d'or.
C'est parce que c'est une vision court-termiste ?
Oui. Et c'est surtout parce que c'est une vision parfaitement idiote de leur métier.
Qu'est-ce que tu penses du film Bienvenue à Gattaca ? Est-ce que tu l'as vu ?
Je le trouve plutôt optimiste, en fait.
Pardon.
Je le trouve plutôt optimiste. Il présente une vision dystopique assez sombre, et je pense que la réalité pourrait être bien pire que ça.
Question de l'Internet, de la communauté. Deux points. C'est quoi la neutralité du net ? Point d'interrogation. Pourquoi faut-il la défendre ? Point d'interrogation. Quid de l'influence future de l'intelligence artificielle dans la vie privée ?
Alors, pareil, là, il y a un bullshit word qu'il faut que je flingue, intelligence artificielle. Je sais que c'est le terme approprié, c'est un terme que j'accepte d'utiliser quand je discute avec des informaticiens, parce qu'on est entre gens du métier. Moi, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école. Un de mes sujets de spécialisation, c'était les réseaux de neurones, en particulier les cartes de Cohen-en, pour les gens que ça intéresse. Dans la discussion en vrai français de tous les jours, je refuse d'utiliser ce mot-là parce que c'est un mot qui porte plein d'a priori dans la tête des gens. En particulier, ça suppose qu'on va rendre une machine intelligente, ce qui n'est pas le cas. Aucun algorithme, à aucun moment, n'est doté ni de volonté, ni de sentiment. Il n'est donc pas intelligent.
De conscience ?
Il n'est pas doté de conscience non plus.
Pourquoi on parle de donner des droits aux robots ?
Eh bien, en fait, parce que on suppose le mot intelligence artificielle au sens réel du mot intelligence. Et donc, si on parle d'intelligence artificielle, le jour où on en trouvera une, hein, parce que c'est pas fait ça, alors il faudra réfléchir à quels sont ses droits, quels sont ses devoirs et à quel point est-ce que c'est un citoyen. Mais il se trouve que pour le moment, tout ce qu'on fabrique, c'est pas ça du tout. Ce qu'on te vend sous le nom intelligence artificielle, c'est juste un petit peu d'analyse statistique et un petit peu d'analyse structurelle.
Et prédictif ?
Ben oui, mais les statistiques, c'est prédictif. Si je te lance une balle, tu vas la rattraper, c'est prédictif. Parce que statistiquement, 99,9999 fois sur 100, quand la balle suit telle trajectoire, elle arrive à tel endroit, et puis tu la rattrapes. Il se trouve qu'une fois de temps en temps, elle est déviée par quelque chose auquel tu n'as pas fait gaffe, et du coup, tu la rates. Mais ça, c'est de l'analyse statistique et prédictive. Ça peut même être de l'analyse structurelle, parce qu'il se trouve que tu calcules super bien de tête, que tu as donc su évaluer la force et l'impulsion et les mouvements que j'ai donnés à la balle, et tu as fait du calcul de trajectoire, tu sais que c'est une parabole, et du coup, tu places la main au bon endroit pour rattraper. C'est les
la
deux
gravité,
formes.
La gravité, c'est combien déjà ? 9,80 mètres secondes.
9,81 à Paris. Donc ça, c'est les deux formes d'intelligence artificielle qu'on a, de soi-disant intelligence artificielle, qui sont soit de l'analyse structurelle, soit de l'analyse statistique, à partir de laquelle on fait des prédictions. C'est-à-dire, en moyenne, les gens qui ont regardé tel et tel et tel article du catalogue Amazon ont acheté tel truc. Et donc Amazon, il fait des stats et il fait, ok, t'as cherché le tome 1, le tome 2 et le tome 3 d'Harry Potter, je vais te proposer le tome 4. Tu parles d'un beau résultat statistique quand même. C'est pas con. Mais voilà, c'est ça ce qu'on appelle intelligence artificielle et prédictive. C'est de cet ordre-là. Il se trouve que l'analyse statistique régulièrement fait ressortir des choses hyper surprenantes. Et que toi, tu es incapable de lire à l'œil nu. L'exemple relativement classique, c'est on analyse tout ce que tu achètes quand tu fais tes courses. Mettons, tu as ta carte de fidélité de la supérette en bas de chez toi, puis tu fais tes courses régulièrement. On va être capable, à partir de ça, de dire plein de trucs que toi, tu ne sais pas sur ta vie privée. Parce que on a des modèles prédictifs là-dessus. Typiquement, quand tu n'as pas le moral, tu as plus tendance à acheter tel produit plutôt que tel autre, et du coup, on arrive à te dire que tu es déprimé. Si ça se trouve, tu t'es même pas rendu compte consciemment que tu étais dans une petite phase de dépression. Mais juste, l'analyse statistique le montre. On arrive à détecter si tu es malade, on arrive à détecter quand les femmes sont enceintes. Parce qu'il y a tel ou tel comportement dans les achats qui change.
Ou quand on va se séparer.
Etc. Ça, c'est de l'analyse statistique prédictive, et c'est très surprenant, parce qu'en fait, ça sait des choses sur toi, dont tu n'es même pas forcément encore conscient, ou que tu n'avais pas accepté de dire.
Ou que tu n'as pas encore émis l'hypothèse de faire.
Oui.
Ça pose problème, ça ?
Pas forcément, ça dépend de ce qu'on en fait, et ça dépend qui en fait quoi.
Ok, exemple, imagine-toi, tu as un fils, ce fils veut devenir juge. Dans son comportement sur Internet, on détecte rapidement qu'il va devenir juge ou journaliste ou quelque chose. On a un pouvoir qui est un peu plus dur qu'aujourd'hui. Si on l'identifie comme personne à risque pour le pouvoir dès le départ, ça peut poser un problème ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?
Oui, oui, ça peut poser un problème parce que tu supposes... En fait, là, tu es exactement dans le modèle qui est prévu par Minority Report, qui est celui que raconte Minority Report. Et en fait, tu ne dois pas pouvoir reprocher aux gens une analyse statistique. Tu dois pouvoir reprocher aux gens ce qu'ils ont fait. Bien, typiquement, mettons, tu te sépares d'avec ta copine.
Copain ?
Oui, aux dernières nouvelles, je te croyais hétéro.
Continue, arrête de balancer.
Donc tu te sépares avec ta copine, il se trouve que c'est plutôt mouvementé, que ça se passe pas bien, que vous vous engueulez vraiment beaucoup. Statistiquement, en fait, il y a un risque que ça dégénère vraiment.
En crime passionnel.
En crime passionnel, il y a un risque. Mais en fait, tant que t'as pas cédé à la pulsion, c'est pas un crime passionnel. Il n'y a pas de crime passionnel. Si tu contrôles ta pulsion, et puis qu'au final, ou qu'elle contrôle sa pulsion, et qu'elle te plante pas... le couteau qu'elle a dans la main, et qu'à la place, elle plante le couteau dans la table, et puis elle prend son sac et elle se barre. Il n'y a pas de crime passionnel. Et en fait, tant que ça n'a pas eu lieu, tu ne peux pas savoir. Les statistiques disent que la probabilité de crime passionnel vient de passer, pendant ce moment-là, de 0,00001% à 35%. C'est colossal. Mais ça n'a pas eu lieu. Et quand bien même ça aurait atteint 99,9%, tant que ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas de fait à reprocher. Ça peut justifier que les voisins s'en mêlent, parce que vous criez, ça devient dangereux, on appelle la police vient, elle calme tout le monde. C'est relativement classique. Mais il n'y a pas motif à incarcération, il n'y a pas délit, il n'y a pas crime. Et ça, c'est un problème de fond dans le droit. Tu ne peux pas condamner les gens pour des choses qu'ils n'ont pas encore faites. C'est l'évidence même, tous les juges le savent. L'intention peut être un crime, la préparation peut être un crime. Typiquement, préparer un acte de terrorisme, même si on ne le réalise pas, est en soi un crime. Mais tu ne vas pas du tout en prison avec le même quota que si tu as réellement réalisé un acte terroriste. Ce n'est pas la même peine.
On pourrait parler des heures avec toi. Question d'Internet. Peut-on encore décentraliser Internet ? Point d'interrogation.
Ah, ça c'est une grande question, parce qu'en fait c'est une question qui est pleine de tristesse. Peut-on être encore heureux dans le monde moderne ? Ben, j'espère bien, sinon il faut se pendre. Peut-on encore créer une société un peu juste, malgré... Tu mets tout ce que tu veux derrière, le gouvernement, le grand capital, les méchants. Ben, j'espère bien, sinon on peut se pendre. Donc oui, j'espère qu'on peut encore décentraliser Internet, la technologie le permet. Donc on peut encore fabriquer des bouts d'Internet neutres, propres, décentralisés, qu'on opère nous-mêmes.
Autre question d'Internet. Sa bataille en sous-marin pour annuler les lois inconstitutionnelles. Point d'interrogation. Tu fais du sous-marin, toi ?
On fait pas de sous-marin, nous. Nous, on fait pas de sous-marin du tout. On publie.
Tu vas en frontal.
Ce qu'on fait dans les exégètes amateurs, on publie tout. Alors en fait, on est complètement en sous-marin avant. C'est-à-dire quand on décide qu'on va attaquer tel ou tel décret, quand on décide qu'on va lancer une question prioritaire de constitutionnalité sur tel sujet, tant que le mémoire n'est pas déposé au greffe du Conseil d'État ou au greffe du Conseil constitutionnel ou quoi, on ne publie rien et on ne dit rien sur nos intentions.
Vous chiffrez tout, entre vous ?
Non.
Hein ?
Oh, non, non, non.
T'as une fichesse ?
Pardon ?
T'as une fichesse ?
Aucune idée. Rien
t'as
à foutre.
T'as demandé ?
J'ai pas demandé, je m'en fous.
Tu vas pas demander ?
Non. Je crois pas, mais... Voilà. Les indices habituels qui sont les contrôles aux aéroports, etc., etc., me font penser...
Que t'as pas de fichesse.
Que j'ai pas de fichesse. Mais...
Comment on fait pour demander ?
Alors, en fait, la fichesse, tu peux pas demander, on te répondra pas.
Tu peux demander à quelqu'un qui demande pour savoir.
Ça, c'est si t'as des copains dans ce milieu-là, mais c'est pas mon cas. Moi, si tu veux, ce que j'ai de plus gradé, c'est quelqu'un dans ma famille qui est dans la police, mais il aura pas ces infos-là. Puis s'il les a, j'ai pas envie de lui demander, parce que j'en ai vraiment rien à carrer. Ce qu'on pouvait demander autrefois, c'est si tu as une fiche aux renseignements généraux. Ça a tellement changé de nom ces temps-ci que je ne sais même plus comment s'appelle leur fichier. Et là, je suis certain d'avoir une fiche.
Tu te rappelles d'Edvige ?
Ouais.
C'était quoi Edvige ?
Un des innombrables fichiers de police qui a été retoqué parce qu'il contenait trop de choses sur trop de gens.
Il y avait une belle chanson sur Internet, sur Edvige. Alors, question d'Internet. Benjamin Bayard peut-il développer sa thèse de la dangerosité de la NSA et de la DGSE qui ne révèle pas les failles qu'il trouve ? Pas mal.
Alors, ça, pour le coup, ça se rapproche assez de la forfaiture.
Un mot qu'on affectionne beaucoup.
Parce que, normalement, le rôle de ces agences-là, c'est d'améliorer la sécurité des citoyens. Quand on détecte une faille de sécurité dans un logiciel, la question n'est pas de savoir si elle sera exploitée, mais de savoir quand elle sera exploitée et par qui. Elle sera toujours exploitée. Si les gens de la NSA ont été assez malins pour la trouver, ils sont brillants, ils sont nombreux, tout ce qu'on veut. Les méchants, ils sont pas bêtes, ils sont un peu moins nombreux, mais quand même pas mal.
C'est qui les méchants ?
En gros, les...
Est-ce que nous, on est des méchants ?
En fait, c'est une question d'intention et c'est pas une question de méthode. Quand tu cherches les failles dans les systèmes informatiques pour te marrer, t'es pas dangereux. Pour te foutre de la gueule des gens qui ont un système tout troué, t'es pas dangereux. Pour signaler les problèmes, t'es pas dangereux. Pour corriger les problèmes, t'es pas dangereux. Quand tu cherches à mettre en danger les gens pour leur extorquer du pognon, t'es dangereux.
On a arrêté de faire ça, tu le sais bien. On a arrêté avec toi, d'ailleurs. Tu te rappelles pas ? Non.
Tu sais bien que je peux pas parler en public.
Oui, c'est vrai. Autre question de la communauté.
Et donc, en fait, pour moi, ces gens-là sont très dangereux, NSA et DGSE, parce qu'ils cherchent, voire ils fabriquent des failles.
Ils implémentent.
C'est-à-dire que ça leur arrive de contribuer à des projets.
Tort.
et de exprès laisser traîner des failles dedans. Ces failles sont un danger public pour tout le monde. C'est-à-dire, ce sera exploité par des gens malveillants, par des malfaiteurs. C'est le nid de tous les ransomware aujourd'hui. Et en fait, susciter ou maintenir ces dispositifs, en fait, affaiblir la qualité de la sécurité logicielle, c'est mettre en danger tout le monde. Et ils le font pourquoi ? Parce qu'ils espèrent comme ça pouvoir s'introduire dans les systèmes informatiques et pouvoir faire de l'espionnage économique, pouvoir faire, c'est comme ça qu'on va attraper les terroristes et tout, c'est jamais comme ça qu'on les attrape, jamais. On les attrape par de la surveillance policière à l'ancienne, par le fait de les mettre sur écoute, de s'intéresser à ce qu'ils font, de regarder quel milieu ils fréquentent, de surveiller les trafics de pognon, de surveiller les trafics d'armes. Mais évidemment, quand on parle de surveiller les trafics de pognon, il n'y a plus personne.
Il faut quand même bien
qu'on puisse faire transiter le pognon de tout le monde par le Luxembourg et la Suisse, sinon comment veux-tu qu'on fasse du blanchiment proprement ?
Mais comment tu veux qu'on survive, hein ?
En travaillant.
Ah oui, ils ne travaillent pas ces gens-là, si ils font de l'optimisation fiscale.
Non, ça c'est leur avocat fiscaliste qui bosse, pas eux.
Merci. T'as confiance en Tor ?
Raisonnablement. En fait, moi j'ai confiance dans tous les outils de chiffrement, y compris les plus faibles. La question n'est pas de savoir s'ils sont incassables. T'as deux questions fondamentales en matière de chiffrement pour moi. Est-ce que c'est suffisamment solide ? Là, la question n'est pas simple. Manifestement, les bons algos de chiffrement sont suffisamment solides puisqu'ils font chier la NSA. Voilà, on a appris ça via Snowden. RSA, PGP, ça c'est a priori solide. Les courbes elliptiques, ça a l'air mathématiquement assez solide.
Sur les courbes elliptiques, je veux bien te croire. Après sur, ils n'avaient pas corrompu PGP à un moment, non ?
Non, ils ont fait des trous dans OpenSSL, mais pas dans PGP et pas dans les algos de chiffrement, justement. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire rentrer des trous dans les softs. Des bugs. Donc il y a le premier morceau qui est « est-ce que c'est infiniment inviolable ?» Et en fait, ça, c'est pas une question intéressante. La question, c'est « est-ce que ça augmente le prix ?» Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça augmente le prix. T'as le choix. Ou bien t'as une petite fraction de la population qui chiffre une petite fraction de ses communications, qui sont des communications hypersensibles. Et en fait, d'abord, ça flague les communications. Ça dit « ceci est hypersensible ». Et donc, tout d'un coup, ça devient hyper surveillé. Et puis, si on cherche, on finira bien par trouver comment le casser. Ou bien on décide de chiffrer, éventuellement de manière assez faible, tout. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça augmente le prix de la surveillance. Ouais. Parce que, au lieu d'écouter un truc en clair, on se met à devoir écouter quelque chose qui est un peu chiant à déchiffrer. Il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup.
Tu ne fais pas le jeu des terroristes, là ?
Non, je fais le jeu qui consiste à protéger la vie privée des gens. Et ça, si tu veux, je te raconte pourquoi c'est important.
Allez.
En fait, tu peux retrouver ça, j'aime bien le définir ou bien en droit ou bien en philo. Tu préfères quoi ?
Ah, la philo, et ensuite le droit.
En philo. Eh bien, en fait, tu ne peux pas développer une pensée autonome si tu te crois surveillé. Quand tu te penses légitimement surveillé, tu développes une forme de paranoïa. C'est pas que tu t'auto-censures. C'est pas seulement ça. C'est pas parce que je vis sous le régime Ben Ali, je ne critiquerai pas le gouvernement, je vais même pas en parler à ma femme, à mes gosses, à mon voisin, j'en parle à personne, parce qu'il y a tellement de gens qui coopèrent avec la police en espérant grappiller un petit quelque chose, un bacchiche, un passe-droit, un truc, il y a tellement de gens prêts à collaborer avec la police, et qui donc ça va se retourner contre moi, que je parle à personne. J'ai encore un peu d'idées sur « j'aime pas le gouvernement, mais je le dis pas ». Ça, c'est l'autocensure. Mais en fait, quand tu te penses surveillé, quand tu te sais surveillé, il y a des formes de pensée que tu ne développes plus. C'est le principe de la pensée de meute. Si tu vis tout le temps en groupe, tout le temps avec des gens qui te surveillent, tu es incapable de formater, de conceptualiser une idée qui soit non cohérente avec le groupe. Et donc, quand tu te sens surveillé, il y a des formes de pensée que tu n'es plus capable de développer. Et donc, tu ne peux pas avoir une pensée politique dissidente dans un système de surveillance massive.
Dissidente ou nécessaire ?
C'est nécessaire, une pensée dissidente. En fait, tu ne peux pas être en accord avec le système si tu n'as pas le droit d'être en désaccord. Et si tu n'es pas capable de développer une pensée qui soit hors de la norme établie, alors on n'est plus en démocratie. Parce qu'en fait, tu n'es plus un être libre. Et donc, la vie privée, c'est-à-dire le droit de développer une pensée autonome, potentiellement en désaccord avec... la majorité bien-pensante de la population, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée politique, il n'y a qu'une pensée de meute.
On stérilise l'esprit critique ?
Oui. on stérilise la pensée. En fait, on empêche le développement de la pensée. C'est très joliment dit en droit, dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 1978, dit Classe contre Allemagne. Voilà. Tu chercheras dans les mémoires des exégètes, il est cité à plusieurs moments, Classe contre Allemagne 1978.
On va être obligé d'arrêter. Benjamin Bayard, merci.
Je t'en prie.
On coupe ?